France Culture.
Tout de suite, c'est les informations présentées par Marion Ferrer. Bonjour Marion.
Bonjour à tous. RN, camp présidentiel et parti de gauche, rassemblement politique en cascade aujourd'hui en réaction à la condamnation de Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics et donc inéligible pendant 5 ans, entravée dans sa course à l'Élysée. Le Rassemblement national crie au procès politique. Nous reviendrons sur la stratégie du parti d'extrême droite avec notre invité dans ce journal. L'Iran balaye la proposition de Donald Trump et rejette l'idée de négociation directe avec les États-Unis au sujet de l'épineux dossier du nucléaire. Près de 2 ans de combats et des milliers de morts, la guerre au Soudan s'enlise. Nous serons sur place avec notre correspondante dans la région. Dimanche hautement politique. Aujourd'hui, le RN, le Bloc central et la gauche sont mobilisés. Tout d'abord, avec 2 rassemblements opposés organisés cet après-midi à Paris. L'un mené par le Rassemblement national en soutien à Marine Le Pen. Rendez-vous à 15h, place Vauban, dans les beaux quartiers de la capitale. L'autre à l'initiative des écologistes et des insoumis contre l'extrême droite cette fois et qui doit débuter dans quelques instants, place de la République. 2 rassemblements qui interviennent après la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité lundi dernier. Condamné, on le rappelle, pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Préjudice estimé à plus de 4 millions d'euros. Antoine Maret, Marine Le Pen espère mobiliser suffisamment de soutien car elle joue très gros.
Dès la condamnation de Marine Le Pen lundi dernier, Jordan Bardella a appelé à une mobilisation populaire et pacifique. Pendant toute la semaine, le Rassemblement national, peu habitué à ce genre d'initiative, a hésité à la qualifier. Meeting, manifestation ou encore rassemblement. Mais le mot d'ordre est clair, soutenir Marine Le Pen contre, je cite, « la tyrannie des juges ». Le RN espère faire pression sur l'exécutif, sur la classe politique et sur la justice. Mais la démonstration de force souhaitée pourrait bien se retourner contre le parti d'extrême droite, selon le professeur des universités à Sciences Po, Pascal Perrineau.
Cette manifestation est importante quant à ses conséquences. Est-ce que ce sera une manifestation sans véritable importance, sans un écho majeur, ou est-ce que ça créera un électrochoc en montrant la capacité éventuellement du Rassemblement national à mobiliser? Ce Rassemblement national dit qu'il a plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Est-ce que ces adhérents, au moins, indépendamment des sympathisants, seront dans la rue? Ça n'est pas forcément évident.
Pour ce rassemblement prévu à 15h, 5 à 8 000 personnes sont attendues, selon une source policière.
Et les précisions d'Antoine Maret. De son côté, le Premier ministre juge ni sain ni souhaitable d'organiser un rassemblement contre une décision de justice, déclaration faite ce matin dans une interview accordée aux Parisiens. François Bayrou, qui se trouve aujourd'hui à Saint-Denis, à la Cité du cinéma, au meeting de Renaissance, prévu de longue date par son secrétaire général Gabriel Attal. Un meeting qui a dû revoir sa feuille de route. Et Gabriel Attal vient de s'exprimer. Il fustige les attaques du RN envers la justice.
Gardons intact cet attachement à la moralisation de la vie politique et à nos institutions au moment où elles sont contestées par l'extrême droite qui se réunit aujourd'hui pour attaquer nos juges, attaquer nos institutions. Cette valeur de défense de nos institutions, de notre état de droit, malheureusement, elle devient singulière dans le débat public. Et nous ici, nous ne disqualifierons jamais une décision de justice. Nous ne dirons jamais qu'il y a des juges rouges, des juges blancs, des juges autres, surtout dans un moment comme on traverse aujourd'hui où tout est contesté. Nous sommes ensemble et nous avons vocation à rester ensemble parce que nous défendons les valeurs de la République. Oui, nous défendons les valeurs de la République face aux outrances de la France insoumise qui sème le communautarisme, l'islamisme, l'antisémitisme. Nous continuerons à les défendre, chevillés au corps, comme nous les défendons face à l'extrême droite qui propage la stigmatisation et la haine.
Propos recueillis par Rosalie Lafarge pour France Culture. Invité de ce journal, Pierre Alaurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire du droit et des institutions à l'Université d'Orléans. Vous êtes également co-auteur du livre Procès politique, tribune ou tremplin pour l'opposition aux éditions Presse universitaire de Rennes. Pierre Alaurent, ce rassemblement national, se fait aujourd'hui au nom de la démocratie en soutien, disent-ils, à Marine Le Pen. Le procès en lui-même, il passe un peu au second plan. On rappelle qu'elle a tout de même été condamnée pour détournement de fonds publics.
Oui, c'est exactement cela. Cette manifestation, elle est faite pour instaurer un rideau de fumée par rapport à la gravité de la condamnation principale, c'est-à-dire, vous l'avez rappelé, hein, ce détournement de fonds publics massif, systématisé, centralisé, c'est ça la spécificité du Rassemblement national par rapport au MoDem ou à LFI qui sont également accusés par rapport aux assistants parlementaires européens. Et donc, on se focalise uniquement sur la peine accessoire, c'est-à-dire l'inéligibilité.
Alors, bombe nucléaire, tyrannie des juges, les mots employés cette semaine par Marine Le Pen et les cadres de son parti sont très forts. Elle a tenté ces dernières années de dédiaboliser son parti. Le parti retombe dans ses travers.
Exactement. On a l'impression, depuis la condamnation, depuis qu'elle a quitté brutalement le palais de justice de Paris, de revoir son père. Et donc, elle risque de mettre à bas 15 années d'efforts de dédiabolisation, parce que mettre en cause l'état de droit à travers les juges de la République, ça n'est pas ce que fait un parti de gouvernement. Et donc, elle risque d'inquiéter deux cibles principales dans l'électorat que visait le Rassemblement national pour pas simplement être un parti de premier tour, mais pour gagner le second tour d'une présidentielle, les retraités et les cadres, en particulier du secteur privé. Elle risque de les effaroucher et que ces deux catégories retournent vers les partis traditionnels.
Est-ce que c'est une constante dans le parti anciennement Front National, ce revirement ?
Alors, habituellement, Jean-Marie Le Pen, effectivement, nous avait habitués à être contre l'establishment, comme il disait, comme contre les élites, contre l'État. Et donc, lui, c'était dans la cohérence de son discours. En 1998, par exemple, il avait organisé une manifestation contre son inéligibilité à la suite de violences à l'égard d'une députée. Il était dans son rôle. Le problème aujourd'hui de cette manifestation du Rassemblement national, c'est qu'elle est à contre-emploi par rapport à l'image que voulait se donner ce parti qui a maintenant des vice-présidents, enfin qui avait des vice-présidents à l'Assemblée nationale, qui est un parti désormais de notables et d'élus et qui se veut un parti de gouvernement. Eh bien là, il y a un risque de mettre tout cela par terre, tout en contredisant également, tout en rendant très difficile le plan B, c'est-à-dire le plan Jordan Bardella.
C'est ce que j'allais vous dire, il y a pourtant un plan B, elle a un nouveau président à la tête de son parti, elle ne veut pas passer la main ?
C'est le problème, c'est qu'on a bien vu depuis une semaine que les cadres du Rassemblement national eux-mêmes ne croient pas à l'hypothèse Jordan Bardella. Donc c'est très difficile de vendre un produit marketing, même sur TikTok, comme Monsieur Bardella, de vendre un produit auquel on ne croit pas soi-même. Et donc effectivement, on risque de se retrouver au Rassemblement national, même avec un appel qui a été accéléré à l'été 2026, très tard, à la veille d'une présidentielle, avec donc une candidate qui sera probablement à nouveau empêchée, et un candidat de substitution qui sera dévalué, dévitalisé.
Alors en face du Rassemblement national, on a la gauche et le bloc central qui se mobilisent aussi aujourd'hui. Est-ce que eux peuvent en sortir grandis ? On vient d'entendre Gabriel Attal à l'instant dans le journal.
Alors, il faut distinguer les deux, effectivement, vous avez raison. D'abord, M. Attal est beaucoup plus clair dans sa dénonciation des critiques des juges que ne l'a été le Premier ministre, qui, au banc du gouvernement à l'Assemblée nationale, a prétendu réagir en citoyen, peut-être plutôt en justiciable, lui-même sous le coup d'un procès en appel, et qui a avoué son trouble et son émotion. Monsieur Attal, effectivement, dans sa condamnation, est très clair. La gauche est divisée, à nouveau, puisque dans la rue aujourd'hui, il y a uniquement LFI et les écologistes, et que les socialistes et les communistes n'ont pas voulu s'y associer pour justement ne pas accréditer l'idée que cette condamnation serait politique.
Merci Pierre Alaurand d'avoir été l'invité de France Culture ce dimanche dans le journal de 12h30. Le bras de fer entre Téhéran et Washington se poursuit au sujet du dossier du nucléaire. Donald Trump a suggéré des négociations directes tout en menaçant de bombarder le pays en cas d'échec de la diplomatie. Méthode qui n'a pas plu à l'Iran. Siavaf Ghazi, la République islamique rejette une nouvelle fois toute négociation directe avec les États-Unis.
des négociations directes avec un pays qui menace constamment de recourir à la force et dont les responsables tiennent des positions contradictoires n'ont pas de sens, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Mais il a ajouté que Téhéran était prêt à des négociations indirectes pour permettre la levée des sanctions contre son économie, mais aussi donner des assurances sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Cette déclaration intervient alors que le président Trump a affirmé vouloir des négociations directes avec Téhéran plutôt que de passer par des intermédiaires. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, notamment en envoyant une dizaine de bombardiers B-2 capables de détruire les installations nucléaires iraniennes enfouies sous la montagne. Le rejet de toute négociation directe intervient également alors que le premier ministre israélien doit se rendre à Washington pour parler notamment du nucléaire iranien. Plusieurs responsables à Téhéran, notamment Ali Larijani, conseiller du guide suprême, ont affirmé qu'en cas d'attaque américaine, l'Iran n'aura d'autre choix que d'aller vers la construction de l'arme atomique.
Siavov Ghazi, correspondant à Téhéran de France Culture. La Russie ne veut pas la paix, assure ce dimanche le ministre de l'Europe. Selon Benjamin Haddad, l'objectif de Moscou est, je cite, d'effacer l'Ukraine en tant que nation indépendante. La capitale, Kiev, a de nouveau essuyé des tirs de missiles russes ce dimanche matin, abattus par la défense antiaérienne. Bilan, un mort et trois blessés. Le ministre des Affaires étrangères, lui, est en Algérie aujourd'hui, signe de la reprise du dialogue entre Paris et Alger après 8 mois de crise. Jean-Noël Barrot doit rencontrer son homologue algérien, un échange qui fait suite à l'appel en début de semaine entre les présidents français et algériens. Où en est la guerre au Soudan? L'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR s'affrontent depuis près de 2 ans. Le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de Soudanais ont dû fuir. Il y a une semaine, l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan a repris la capitale Khartoum, détenue depuis le début des combats par les paramilitaires. Une victoire certes, mais Lisa Vili, la guerre est loin d'être finie.
Ce que montre cette défaite des FSR à Khartoum, c'est bien la faiblesse de ses troupes. Faute d'encadrement d'abord, en 2 ans de guerre, le général Emeti a perdu beaucoup de ses cadres et les nouveaux sont moins expérimentés, moins respectés aussi. Faute de combattants également, face aux nombreuses pertes et au manque d'argent, pas question de filtrer les candidats plus motivés par la paye que par la cause. Si l'armée du général al-Burhan gagne du terrain, à l'inverse, c'est qu'elle a renforcé sa coopération avec des milices qu'elle arme, entraîne et encadre. Pour autant, aucun des deux camps ne se dit prêt à négocier. En mars, les FSR ont créé un gouvernement parallèle au Darfour et l'armée soudanaise se prépare à attaquer la région, ce qui est loin d'être joué d'avance, selon Roland Marchal, chercheur au CNRS, spécialiste des guerres en Afrique.
L'armée, elle peut effectivement dire qu'elle va aller combattre jusqu'au bout du Darfour. Le problème, c'est qu'ils ont quand même perdu beaucoup de gens et qu'ils ont très peu d'alliés au Darfour. Ensuite, les alliés locaux, ils ont des ambitions politiques très fortes, hein, de l'argent, des postes. Ils ont demandé la moitié du gouvernement, ensuite ils ont demandé un tiers du gouvernement. Enfin, ensuite, ils vont perdre beaucoup d'hommes. Parce qu'au Darfour, la population, elle ne les aime pas.
Les soutiens étrangers des deux camps poussent à des négociations, mais le scénario le plus probable, selon lui, reste une guerre d'usure.
Lisa Vili au Soudan pour France Culture. Le geste se veut rassurant pour des millions de fidèles à travers le monde. Le pape François a fait une apparition surprise en fin de matinée, place Saint-Pierre à Rome, et quelques minutes pour saluer et bénir la foule, 2 semaines après sa sortie d'hôpital. Le souverain pontife, 88 ans, est en convalescence, fragilisé par une grave pneumonie. Il est arrivé en fauteuil roulant et portant des canules nasales à oxygène pour l'aider donc à respirer. À la Réunion, début de la vaccination demain sur l'île pour tenter d'enrayer l'épidémie de chikungunya. 40 000 doses de vaccins sont prêtes à être administrées. L'Agence régionale de santé estime que le pic de cette maladie transmise par le moustique tigre n'est pas encore atteint et s'attend prochainement à 10 000 nouveaux cas par semaine. Un mot de la météo. Votre dimanche se fera sous un grand soleil malgré quelques nuages sur le sud-ouest du pays. Les températures, elles sont toujours douces. 12 degrés cet après-midi pour Strasbourg, 18 à Brest et Nice. La maximale, 25 degrés, ça sera pour Montpellier.